RFI, grand reportage. Marie-Pierre Olfan.
Bonjour à tous. Grand reportage nous emmène aujourd'hui à la rencontre de ceux qui ont décidé de se battre pour que les crimes commis à l'époque soviétique ne tombent pas dans l'oubli. Ils ont 30, 50 ou même 80 ans. Ce sont des historiens, des militants ou des descendants de victimes. Et inlassablement, ils récoltent des informations pour lutter contre une amnésie, parfois encouragée par les autorités actuelles. Nous avons décidé de suivre ces hommes et ces femmes dans leur combat, du siège du KGB, toujours occupé par les services de renseignement, aux fosses communes de la banlieue de Moscou. En Russie, le combat des passeurs de mémoire, c'est un grand reportage de notre correspondant à Moscou, Daniel Valo.
Alexander Nikitovich Selikov, 18 лет.
Юрий Юрьевич Оплок, 45 лет. Помощник командующего войсками Московского военного округа, комдив.
C'est une file interminable, des centaines et des centaines de personnes qui attendent leur tour devant nous pour lire, durant quelques instants seulement, les noms de leurs proches, disparus à l'époque soviétique, arrêtés, déportés et parfois exécutés. Cette cérémonie a lieu tous les ans au mois d'octobre, ici, en plein cœur de Moscou. Elle est empreinte d'émotion et parfois aussi de colère, car elle se déroule à un endroit bien précis, sur la place de la Loubianka, devant le bâtiment massif qui héberge actuellement le FSB, les services de renseignement russes, et qui hébergeait autrefois le KGB.
Je m'appelle Natalia. Ma famille, comme tant d'autres familles en Russie, a été touchée par les purges à l'époque de Staline. Nous ne savons toujours pas ce que sont devenus plusieurs de nos proches. Alors quand j'ai prononcé leur nom tout à l'heure, j'ai eu envie de pleurer. Et j'ai encore envie de pleurer. Il n'y a plus rien à faire pour les aider, mais au moins j'ai lu leur nom.
Emmitouflée dans son manteau, Natalia est venue seule, une bougie à la main. Depuis plusieurs années, avec sa sœur, elle tente de savoir ce que sont devenus deux de ses arrière-grands-oncles déportés au début des années 30.
Personne ne nous aide. Nous sommes seuls face à cette tragédie. Nous essayons de reconstituer ce qui s'est passé, morceau par morceau. Mais il y a des choses auxquelles nous n'avons pas accès. Nous savons que ces documents existent, qu'ils sont là peut-être dans ce bâtiment devant nous, mais ils ne nous aident pas. Nous voudrions savoir au moins où ils ont été enterrés. Nous savons qu'ils ont été tués, mais nous voudrions savoir où, pour pouvoir nous recueillir, pour pouvoir penser à eux, pour pouvoir parler d'eux à nos enfants ou à nos futurs enfants. C'est important pour nous, comme pour tous les Russes, de se souvenir de ces événements terribles, pour qu'ils ne se répètent pas.
Se souvenir et transmettre aux générations actuelles la mémoire de cette tragédie collective. C'est la mission que s'est donnée une poignée d'historiens, de militants et de descendants de victimes. Parmi eux, Alexei Nesterenko, un octogénaire au regard vif, qui se rend tous les mercredis devant le bâtiment où son père a été condamné à mort à la fin des années 30. Nous sommes cette fois à quelques encablures de la Loubianka, tout en haut de la rue piétonne qui descend jusqu'à la place rouge.
Des crimes atroces se sont déroulés dans cette maison. C'est là que les soi-disant ennemis du peuple étaient jugés et souvent exécutés. Lorsqu'il a été tué, mon père n'avait que 35 ans. Moi, je n'avais que 25 jours. Ma mère s'est retrouvée seule avec 3 enfants à nourrir.
Semaine après semaine, Alexei vient ici pour raconter aux passants l'histoire de son père et celle de ce bâtiment où siégeait le collège militaire de la Cour suprême de l'URSS. Entre 1936 et 1938, au plus fort de la terreur stalinienne, plus de 30 000 personnes y furent condamnées à mort et des milliers furent exécutées sur place, au sous-sol. Longtemps inoccupée, la maison a été rachetée par un investisseur privé qui veut aujourd'hui la transformer en espace commercial.
Dans la cour intérieure, le propriétaire veut ouvrir un bar avec une terrasse. Nous sommes sidérés. Ce serait comme ouvrir une boîte de nuit à Auschwitz. Heureusement, autour de moi, nous sommes tout un groupe à nous battre contre ce projet et nous ne cesserons jamais de nous battre. Un jour, il y aura un musée dans cette maison et Staline reprendra la place qui lui revient dans l'histoire de notre pays.
Непобедимо за страже Родины родной,
Aujourd'hui, la figure de Staline et son héritage divisent la société russe. Malgré ses crimes, malgré les millions de déportés et l'enfer du goulag, Staline est considéré par une partie de la population comme une figure positive de l'histoire. Une réhabilitation parfois encouragée par les autorités qui insistent sur le rôle positif joué par Staline dans la lutte contre le nazisme. Ce jour-là, sur la place Rouge, nous rencontrons un groupe d'étudiants venus se prendre en photo devant des blindés de la Seconde Guerre mondiale.
Je pense que le rôle de Staline était positif parce que les mesures qu'il a prises à ce moment-là étaient nécessaires.
Cette période, c'est aussi une période où il y a eu des répressions, des purges, des millions de gens qui ont été envoyés au goulag. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas important à vos yeux ?
Je pense que je ne suis pas assez éduquée pour évaluer son rôle à cette période. Parce que, très franchement, je ne suis pas très calée en histoire. Et je pense que je ne connais pas assez de choses.
Selon un récent sondage, la moitié des 18-24 ans en Russie n'a jamais entendu parler des purges staliniennes. À l'ignorance de cette jeune génération vient s'ajouter le culte voué à Staline par une partie de la génération précédente, qui se dit nostalgique de la période soviétique. C'est le cas de cette retraitée moscovite venue elle aussi sur la place Rouge pour admirer les blindés.
Staline était un grand organisateur. Aujourd'hui, on parlerait d'un manager exceptionnel. Il aimait son pays et il se dévouait pour lui. Il avait un pouvoir magnétique pour unir le peuple. Bien sûr, il y a eu des purges, mais une partie de ceux qui ont été jugés en tant qu'ennemis du peuple avaient réellement conduit des opérations de sabotage. Il y avait aussi des gens comme ça, parmi eux, des ennemis de l'État soviétique.
Staline, héros de la Seconde Guerre mondiale, sa politique répressive oubliée par les jeunes générations, ce début d'amnésie collective hérisse les historiens et les militants de la mémoire. En face du Kremlin, de l'autre côté de la Moscova, nous rencontrons Olga Trifonova. Cette écrivaine s'occupe d'un minuscule musée au rez-de-chaussée d'un immense immeuble de béton gris. Surnommée la maison sur le quai, cet immeuble construit dans les années 30 pour héberger les dignitaires du régime soviétique est devenu un emblème de la répression stalinienne.
La construction a débuté en 1928 et en 1931, les premiers résidents se sont installés. Il s'agissait de responsables du gouvernement, de l'armée ou de hauts fonctionnaires. Pour l'époque, c'était un véritable palace. Il y avait une garderie, des magasins et même un cinéma, des cours de tennis.
Dans les années 30, obtenir un appartement dans cet immeuble était considéré comme une récompense. Mais lorsque les purges ont débuté, l'immeuble s'est transformé en piège mortel pour ses habitants, qui deviennent à leur tour la proie du NKVD, la police politique du régime stalinien. Certains sont déportés, d'autres exécutés. Près de 800 personnes, soit un tiers des habitants de l'immeuble, sont victimes des purges.
Dès qu'il y avait une arrestation, les habitants étaient au courant. D'abord, on entendait les bruits dans la cour et les voitures qui débarquaient au milieu de la nuit. Ensuite, les lumières s'allumaient dans l'un des appartements. Cela voulait dire qu'une perquisition et une arrestation étaient en cours. C'était la terreur, une terreur absolue.
Dans son petit musée, Olga Trifonova nous fait découvrir l'intérieur d'un appartement soviétique des années 30. Mais dès l'entrée, un portrait de Staline barré d'un sens interdit annonce la couleur. Ici, pas question de célébrer le souvenir du dictateur soviétique.
Il y a des gens qui voudraient effacer ces crimes de notre mémoire. Mais je pense que les gens qui se disent nostalgiques de cette époque sont surtout nostalgiques de leur jeunesse et de leur bonne santé. L'autre problème, c'est que nous n'avons pas jugé les responsables de la répression.
Vous auriez souhaité que les responsables de la répression soient punis ou mis à l'écart de la société ?
Oui, je pense que oui. Nous avons décidé de pardonner, mais pourquoi ? Peut-être que les autorités ont eu peur de provoquer une guerre civile parce qu'il y avait trop de gens des deux côtés. Il y a cette phrase magnifique de notre poète Anna Akhmatova. Elle a dit « Quand Staline est mort, deux Russies se sont fait face. D'un côté les bourreaux et de l'autre leurs victimes. Aujourd'hui, en tout cas, c'est trop tard, car les bourreaux, pour la plupart, sont décédés.
Après leur arrestation, leur procès expéditif et leur exécution, les victimes des purges étaient souvent jetées dans des fosses communes, en pleine forêt, loin des regards indiscrets. L'une de ces fosses communes se trouve à Komunarka, à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de Moscou. Pour y parvenir, il faut marcher dans un sous-bois tranquille, en évitant les ornières et les flaques de boue. L'homme qui nous sert de guide s'appelle Yan Rachinski. Il est membre de Memorial, une ONG créée à la fin des années 80 pour faire la lumière sur les exactions du régime soviétique.
Sur ce terrain qui appartenait à l'époque au NKVD, plus de 6000 personnes ont été enterrées. Les victimes étaient pour la plupart exécutées à Moscou et les corps étaient transportés jusqu'ici. Les crématoriums étaient débordés. Alors il fallait trouver des endroits pour se débarrasser des corps et ici, le NKVD pouvait le faire à l'abri des regards.
Devant nous, des centaines de photos et de plaques commémoratives évoquent cette page terrible de l'histoire. Des images en noir et blanc ou couleur sépia. Le regard d'hommes et de femmes happés par la folie meurtrière de Staline.
Tout naturellement, dès que l'on a su que des fosses communes se trouvaient ici, les proches et les descendants des victimes ont réclamé un monument. Mais durant des années, l'État n'a quasiment rien fait. Alors les gens se sont cotisés et ils ont réussi à ériger ce mémorial. Et en même temps, chacun s'est mis à installer des plaques et à coller des photos sur les arbres. Je pense que maintenant, il y a plusieurs centaines de plaques comme ça sur tout le site.
Dans son combat pour faire la lumière sur les exactions du passé, Mémorial se heurte à l'indifférence et même parfois à l'hostilité des autorités russes. Pourtant, l'ONG poursuit son travail pour aider les descendants des victimes à accéder aux archives et pour préserver les lieux où se sont déroulés les crimes de la période stalinienne. Mémorial effectue aussi un travail pédagogique en accompagnant les personnes qui le souhaitent sur les lieux de la répression. Ce dimanche après-midi, l'ONG a réuni une vingtaine de moscovites en plein cœur de la capitale russe sur la place de la Loubianka.
Ирина Миронова.
Je m'appelle Irina Mironova. Je suis membre de l'ONG Mémorial et je participe à un projet de cartographie de la répression stalinienne. Sur Internet, nous recensons tous les endroits où s'est abattue la répression à l'époque soviétique.
Devant la Loubianka, Irina décrit les transformations du bâtiment qui a hébergé les services de renseignement soviétiques et qui héberge actuellement le FSB, leur lointain successeur. Puis, elle entraîne le groupe à l'écart de la place, dans une petite ruelle où se trouve un parking.
Ce parking appartient toujours au FSB. C'est ici que les sentences étaient exécutées. Plus tard, les victimes ont été asphyxiées dans des camions. L'employé du NKVD qui a inventé ce système a déclaré par la suite qu'il y avait trop de condamnés à la fois et qu'il n'arrivait pas à tenir le rythme.
Selon les estimations établies par Mémorial, plus de 15 000 personnes furent exécutées dans cette cour. Mais aujourd'hui, rien n'indique aux passants que cet endroit fut un site d'exécution de masse.
Nous organisons ces visites parce que les habitants de Moscou n'ont aucune idée de ce qui s'est déroulé dans ces endroits, puisqu'il n'y a aucune plaque commémorative.
Comment ça se fait qu'un endroit comme ça, où il y a eu des milliers de victimes, reste totalement anonyme aujourd'hui? Comment se fait-il qu'il n'y ait, vous l'avez dit, aucune plaque devant ce bâtiment?
Je pense qu'il n'y a pas eu une condamnation totale de cette période. Bien sûr, l'année dernière, les autorités ont inauguré un monument dédié aux victimes de la répression, mais la discussion publique sur ce qui s'est passé et sur les responsables de cette terreur, cette discussion n'a toujours pas débuté.
Mais vous pensez que les autorités sont hostiles à l'idée qu'on puisse se souvenir de ce qui s'est passé dans ces bâtiments?
L'année dernière, le FSB a célébré son 100e anniversaire et je pense que les services de renseignement actuels se considèrent comme les héritiers de la Tchéka, la police politique créée par les bolcheviks en 1917. Tant que ce sera le cas, ils voudront présenter ce qui s'est passé sous une lumière positive ou même héroïque. Je crois qu'à la base de notre patriotisme, il y a cette tendance à vouloir ne retenir que les choses positives du passé et à oublier les pages les plus sombres de notre histoire.
Nous retrouvons à présent Natalia, cette jeune femme de 30 ans que nous avons rencontrée sur la place de la Loubianka au début de notre reportage. Natalia nous accueille dans son petit appartement au 8e étage d'un immeuble moscovite. Assise devant son ordinateur, une tasse de thé brûlant à portée de main, la jeune femme nous montre son arbre généalogique.
Du côté de ma mère, deux branches de la famille ont été victimes des répressions. Ici, regardez, il y a un vide. Pourtant, il devrait y avoir deux de mes arrière-grands-oncles qui ont été arrêtés dans les années 30. Aujourd'hui, personne ne sait ce qu'ils sont devenus.
Ces arrière-grands-oncles, Natalia en a entendu parler pour la première fois il y a 5 ans, plus de 80 ans après leur arrestation. Déportés et sans doute morts quelque part dans un camp de travail. La vie de deux hommes, comme gommée de la mémoire collective, mais aussi de la mémoire familiale.
Je ne sais pas comment vous expliquer à quel point ce sujet est tabou au sein de notre famille. Le souvenir de ces deux hommes a été effacé pour que le reste de la famille puisse survivre. Il fallait surtout ne pas en parler, ne pas en discuter, parce que c'était une menace permanente d'avoir un parent réprimé. On pouvait être arrêté, harcelé par les autorités, ou tout simplement ne pas avoir le droit de travailler ou d'étudier.
Comme dans de nombreuses familles soviétiques, il fallait donc se taire et surtout ne pas parler des parents happés par la répression. En 2013, une grand-tante finit par évoquer l'existence de ses deux parents disparus. Avec sa sœur, Natalia entreprend alors une longue bataille pour connaître leur histoire. Avec un obstacle de taille, accéder aux archives d'État et à celles du KGB.
Vous ne pouvez pas venir comme ça aux archives et réclamer des dossiers. D'abord, il faut rassembler des documents qui prouvent vos liens de famille. Et même dans ce cas-là, il n'est pas garanti que les archives vous soient ouvertes. Dans les années 90, c'était beaucoup plus facile d'accéder aux archives du KGB. Mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est de plus en plus difficile.
Pourquoi pensez-vous qu'il est si difficile d'accéder à ces archives ?
Eh bien, c'est une preuve directe de la responsabilité de l'État dans ces crimes. Tous ces documents sont autant de preuves de la répression. Or, l'État veut infantiliser la société en effaçant ces preuves. Il y a cette volonté de faire comme si rien ne s'était passé, de ne plus en parler. Mais moi, je pense qu'il est utile pour la société de travailler sur ce sujet, pour comprendre que ce genre de choses ne doit pas se répéter.
Vous pensez que vous allez aboutir dans vos recherches et dans combien de temps ?
J'aimerais que ma génération soit capable de terminer ses recherches. Pour nous, pour notre famille, c'est important de comprendre ce qui s'est passé. Ça fait partie de notre histoire, de l'histoire de notre famille. Je ne sais quasiment rien de ses arrière-grands-oncles, seulement de toutes petites choses. C'est effrayant qu'une famille en arrive à rejeter une partie de son histoire juste pour une question de survie. C'est inimaginable. Moi, je pense que c'est important de se souvenir.
Товарищ Сталин, вы большой ученый, в языкознании, познавший толк, а я простой советский заключенный.
Comme tant d'autres descendants de victimes des purges, Natalia va continuer à se battre pour accéder à ses archives. Des archives qui lui diront peut-être quand, où et comment ses arrière-grands-oncles ont perdu la vie. Ce combat, Natalia va le mener avec sa sœur, pour ses neveux et pour ses futurs enfants, pour que la prochaine génération puisse enfin tourner la page de cette histoire tourmentée. En Russie, le combat des passeurs de mémoire, grand reportage de Daniel Valo, réalisation Pierre Chaffangeau.